Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance. Nous aurons en 4.1, on a la présence d'Alain Boucher, notre vérificateur comptable, c'est Raymond Chabot de Grande-Sorsonne, donc qui vous présentera les états financiers en 4.1. Nous allons procéder d'abord à l'ouverture de la séance du 7 avril 2025. Soyez les bienvenus. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour peut être adopté tel que présenté, il n'y a pas de modification, mais ça nous prend quelqu'un pour en faire la proposition. Luc, merci. Au point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux, le premier en 3.1. C'est le procès-verbal de la séance ordinaire qui a eu lieu ici le 3 mars 2025. Donc, il n'y a pas de correction de procès-verbal. Je le dis. En 3.2, c'est l'adoption du procès-verbal d'une séance extraordinaire qui a eu lieu le 24 mars 2025. Une séance extraordinaire, souvent, quand on fait ça, c'est parce qu'on a besoin d'accélérer ou de rencontrer des échéanciers, là. Donc, il y avait eu un avis public là, pour cette séance-là, là, pour laquelle il y avait pour le déboisement qui s'est fait sous le boulevard Gagnon pour Hydro-Québec. Il fallait que ça passe à date plus vite que la séance de ce soir, le cahier des charges pour l'asphalte et des points comme ça, mais tous les documents sont publics sur le site de la municipalité. Donc, ça me prend un proposeur pour le procès-verbal du 24 mars. Gaston. Au point 4, les dossiers d'administration. Donc, nous arrivons au 4.1, la présentation des états financiers 2024 qui sont terminés au 31 décembre, qui va nous être faite par M. Alain Boucher. Puis, on a des copies pour les gens dans l'assistance. Est-ce que tu veux les faire passer si les gens veulent les avoir au fur et à mesure? Est-ce qu'il y en a suffisamment? Non. Bien, merci. Donc, on va laisser Alain nous présenter ce rapport financier pour l'année 2024.
D'accord, merci. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous présenter rondement les résultats financiers de l'exercice 2024. Donc, voyez à l'écran, je vous suis à l'écran ou dans votre document, on a un excédent au niveau de l'exercice de 1 137 938. Donc, en gros, complètement, les revenus de fonctionnement de 8 082 000, les charges de 7 945 000 pour un excédent de l'exercice de 130 977. Et là, on a une réconciliation des fins fiscales, donc les différents ajustements pour nous ramener en comptabilité municipale. Donc, les trois premières lignes, c'est les ajustements au niveau des immobilisations, d'amortissement, et les sections d'immobilisation et propriétés destinées à la relance, qu'on additionne, et remboursement au niveau des dettes, donc c'est la portion capitale nette des subventions qui a été remboursée pour un exercice, donc 664 406. Et les différentes affectations, donc 235 000 qui étaient affectés au niveau des activités d'investissement. Donc, on va retrouver ce montant-là tout à l'heure quand on va parler des projets. Excellent fonctionnement non affecté, 77 356. Excellent fonctionnement affecté, 301 000. Et les autres financières étant réservées négativement pour 114 188. En gros, c'est pour le remplissement de la réserve financière dans cet élément-là. Donc, un excédent d'un million cent 37 900. La répartition au niveau des revenus, donc, bien entendu, les revenus taxes étant la principale de revenus au niveau de la municipalité de 70%. Au niveau des différentes variations versus ce qui était prévu au budget, donc, la première colonne au niveau des revenus taxes serait relativement comparable à ce qui était prévu. Je vous amène au niveau des transferts, au centre. Donc, 46 000 de plus de revenus de transfert que prévu. Il y a entre autres là-dedans une subvention qui est obtenue, qui a servi à l'évidence au ministre du patrimoine de l'Église, une subvention de 27 800. services rendus, donc des revenus supplémentaires de 259 000 versus ce qui était prévu au budget. Donc des revenus qui proviennent du bureau des véhicules automobiles, des montants supplémentaires au niveau des mutuelles d'assurance à plus près de 100 000. Des revenus d'assistance au niveau des pompiers supérieurs à ce qui était prévu, au niveau des montants de vie également. Et l'accordement réseau, donc des services rendus, pour 62 000 de plus que prévu. Autre revenu juste à côté, il y avait 946 000 de plus que ce qui est prévu également. Donc, le plus important dans ça, c'est les ventes de terrain et réalisées au courant d'exercice. Donc, 738 000 de ventes de terrain de plus que prévu au budget initialement. Donc, les dépenses de fonctionnement, donc, pour vous donner une idée de la répartition, c'est ça que les gens du milieu et transport étant les deux volets de dépenses les plus importants. Les variations au niveau des dépenses, au niveau de l'administration générale, 142 000 de plus de dépenses que prévues. Les services professionnels, les juridiques supplémentaires, ainsi que l'augmentation au niveau des salaires, explique la hausse au niveau des administrations générales. Pour ce qui est des autres volets, la sécurité publique, la même page, est très comparable à ce qui était prévu. Transport, grosse variation au niveau de voirie municipale. Cette fois-là, c'est à l'inverse, c'est des économies, 121 000 de moins de dépenses que prévu. Donc, la principale chose qui était prévue, qui a pas été réalisée, c'est au niveau du raquettage des rues, puis plus de saltage, qu'on trouve plus au niveau des investissements, au niveau du raquettage, à peu près 95 000 de moins de dépenses que prévu. Et pour ce qui est d'enlèvement de la neige, les hausses, c'est très comparable avec l'hiver clément qui a eu en 2024, donc il y a un peu moins de dépenses au niveau de l'enlèvement de la neige. Les gènes du milieu, cette page-là également, c'est au niveau eau et égout, il y a des plus grosses variations, donc on a 73 000 de plus de dépenses que ce qui était budgété. Un peu plus d'entretien au niveau de l'usine de traitement des eaux et des dépenses pour l'accordement qui ont été effectués. Donc, on a vu tantôt qu'il y avait des revenus supplémentaires au niveau des services rendus pour du raccordement. On a aussi la dépense supplémentaire qui a cette rubrique. Pour ce qui est de matières individuelles et autres, c'est des cotes-parts au niveau de la MRC, donc c'est très prévisible et comparable là, au niveau de ces dépenses. Cette page-là de santé et bien-être, donc je comprends dans ça, c'est le portion que la municipalité absorbe au niveau des OMH, donc un peu moins que ce qui était prévu au budget pour environ 9 000 de moins. Aménagement urbanisme, donc 196 000 de plus de dépenses, étant donné la nombre de ventes importantes de terrains, donc on retrouve dans cette rubrique-là les coûts des terrains qui ont été vendus pour 266 000, mais à l'inverse, on a des économies salariales pour un peu plus de 55 000. Donc, c'est un changement de budgétisation qui explique l'économie à ce niveau-là ici. Le volet agriculture, 130 000 de plus de dépenses que prévu. Donc, il y a eu deux éléments plus importants au niveau des dépenses et des églises, des études de requalification, de formation qui ont été effectuées et les dépenses pour le 200e. Donc, en 2024, il y a eu les activités de 200e ici. Donc, il y a 82 000 de dépenses supplémentaires au niveau du 200 000. Le financement, c'est très comparable. Au niveau des investissements, donc des projets qui ont été réalisés au courant de l'exercice, donc vous trouvez au niveau des acquisitions d'immobilisation, 1 389 480. Donc, les projets ont été réalisés pour cette hauteur-là. Le plus important étant au niveau de l'usine de traitement des eaux pour 689 000. Comment ça a été financé? Donc, des revenus d'investissement, des subventions pour 176 475 et des différentes affectations, donc 235 000 au niveau des activités de fonctionnement, 73 000 au niveau des activités de fonctionnement non affectées, excédent de fonctionnement affecté pour 168 000 et des réserves financières et fonds réservés pour 639 000 parce que c'est 140 000 du fonds de roulement. Il reste à la fin de l'exercice 3 596 à financer. C'est une dépense pour leur projet de fonds de la tête urbaine qui sera finalisé en 2020. Au niveau de l'état de la situation financière de la municipalité, donc une dette nette de 5 158 000, des actifs non financiers, donc principalement des infrastructures pour 35 165 142. Par différence, nous donne les excédents cumulés pour 30 506 638. Donc, vous voyez la répartition de ce 30 millions-là juste en dessous. Les excédents de fonctionnement non affectés pour 1 900 000. Excédents de fonctionnement non affectés, 1 435 000. Donc, les excédents au niveau académique, les ventes de terrain domiciliaire fait partie aussi de ces excédents affectés-là. Les aides financières sont réservées 936 000, donc en tout cas, fonds d'excellent fonds de roulement, les sommes disponibles de règlement d'emprunt, elle fait aussi partie de ce montant-là. 1 500 qui était à financer, comme je le disais précédemment. Et l'investissement d'aide dans les immobilisations, 26 237 000, donc c'est la valeur nette, grosso modo, des infrastructures moins les dettes au niveau de la municipalité. Je vous amène à la dernière page, là, c'est les pages précédentes, le déficit financier, le déficit financier. Au niveau de la dernière page, c'est l'endettement total au niveau de la municipalité. Donc, les dettes pour 12 466 000, éléments financiers 3 596, on soustrait les subventions qui sont affectées pour remboursement de ces dettes-là pour 3 063 000. Et comme on a un état financier qui est consolidé, on additionne les portions de dettes qui reviennent aux organismes, donc l'organisme contrôlé, 1 128 000, on parle de la société de promotion industrielle, et la coffre-fort de la municipalité de la dette de la MRC pour 855 901, pour un total de 1 391 920. Voilà.
Merci Alain. Les membres du conseil avaient posé des questions tout à l'heure. On peut prendre quelques minutes pour, si vous avez des questions de la part de l'assistant, qui seraient des questions de clarification auprès de M. Boucher, tant qu'à à pouvoir profiter de sa présence avec nous. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour M. Boucher?
M. Boucher, la question est bien simple. Je vois la dette à long terme en 2022, 4 767 000. En 2023, 13 320 000. Et en 2024, 12 766 900. Est-ce que les emprunts, ces emprunts-là, c'est vraiment la dette de la municipalité? Est-ce que les subventions que vous attendez font partie d'une dette? Est-ce que, autrement dit, je pose la question à Vincent, ça fait un an que j'attends pour la poser. C'est que quand je vois une dette de 12 millions, quand on s'est fait dire lors d'une réunion que ce n'est pas une dette, parce qu'il y a des revenus de subventions qu'on nous rendait. Une dette, c'est une dette. Quand on emprunte de l'argent en attendant d'avoir un revenu, est-ce que c'est une dette?
Oui.
Merci, Mme la mairesse. Vous avez dit que ce n'était pas une dette.
Non, j'ai dit qu'il y avait des amortissements de notre dette.
Je pose la question, Mme la mairesse.
3 millions que je mentionnais qui est à recevoir, qui va servir.
Mais en attendant, est-ce que c'est une dette?
Oui.
Merci. C'est la seule réponse que je vais avoir. Merci. Alors, on veut dire que depuis 2022, on est parti de 4 737 000, on est monté à 12 millions. Donc, en 2022, on avait aussi l'argent qu'on attendait de subvention. Alors, là, on attendait aussi en 2022. La deuxième question, est-ce qu'on a triplé la dette depuis 2022, M. le comptable?
Merci,
M. le comptable. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions pour M. Boucher?
M. Boucher, le service de la dette a coûté quoi l'année passée?
Le service de la dette,
c'est pour
répondre.
Non, mais en fait, si on devait endettement, mettons, à moins de 1 million,
oui.
11 millions, a coûté quoi financer?
Ben, je ne sais pas si vous voulez en venir, je n'ai pas les informations.
Combien on a payé sur notre dette dans la dernière année?
Pardon?
Vous voulez savoir combien on a payé sur notre dette dans les dernières années?
On a payé en intérêt, madame.
OK.
En intérêt, tantôt, on parlait de frais de financement qui ont été 549 146. Okay. Les coûts des financements, les dettes.
Pour l'année 2024.
Ouais.
Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Jessica.
Au niveau du rapport de certification, en fait, est-ce que c'est un rapport avec une GDR?
Il y a une réserve concernant l'évaluation de l'amiante au niveau des bâtiments, qui était là aussi l'année dernière. Okay. Et on retrouve dans pratiquement 50% des municipalités de bâtiments, parce qu'ils sont en train de s'occuper de ça, la plupart, pour réaliser ça en 2020.
Au niveau des revenus financiers du site de dépôt à neige, est-ce qu'il travaille de, pour l'exhaustivité des revenus qui est fait par les directs comptables?
Le dépôt à neige?
Oui, les revenus financiers des entrepreneurs qui viennent porter l'argent, je le fais un peu sur une base volontaire.
Ouais.
Vous faites-vous des tests comme vous vérifiez l'exhaustivité?
On fait des tests sur base aléatoire. On peut en poigner qui vont tomber dans ça, mais c'est pas nécessairement.
Il n'y a pas nécessairement plus de travaux qui étaient là-dessus, il n'y a pas nécessairement beaucoup de contrôle qui étaient.
Exact. C'est pas nécessairement. C'est pas un sujet de chacun.
Est-ce que ça fait le tour des questions de M. Boucher? Ben merci, Alain.
Oui.
Nous allons. Pour les membres du conseil aussi, il n'y a pas de nouvelles questions. Donc, nous te remercions de ta présence et pour l'ensemble de l'exercice, parce qu'on le libère, vous comprenez, qu'il n'y a pas nécessairement à assister à tout l'ensemble de l'affaire. Merci. Merci. Alors, pour la présentation des états financiers, ça nous prend une proposition à l'effet que le Conseil accepte les états financiers qui viennent d'être présentés. Yves, merci. Au point 4.2, c'est la confirmation annuelle du dépôt des intérêts pécuniaires de M. Luc Vaillancourt, qui, lui, est entré dans une élection partielle en cours de mandat, donc c'est la procédure habituelle, comme de quoi nous confirmons avoir reçu le dépôt qui a été fait auprès de notre directrice générale. Ça nous prend un proposeur. Je plains. En 4.3, c'est la modification au calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour l'année 2025. Donc, la séance de septembre qui avait été publiée au calendrier pour mardi le 2 septembre, le lendemain de la fête du travail, est finalement reportée au lundi. On conserve des lundis, mais ce sera le lundi 8 septembre pour la séance de septembre prochain. Puis, pour modifier notre calendrier, bien, ça nous prend un proposeur.
Quoi le proposeur?
Guylaine. En 4.4, c'est une résolution de paiement du solde du règlement d'emprunt 2020-684. C'est un règlement d'emprunt qui est lié au développement domiciliaire de l'érablière pour l'achat du terrain que nous avions fait en 2023. Est-ce que, Émilie, tu veux nous donner plus de détails?
Ça se trouve être des montants qui vont être retournés là, plutôt que de poursuivre là, l'emprunt, là, de renouveler l'emprunt. Là, c'est les montants qui ont été reçus vont être déposés pour fermer le prêt, en fait. Là. C'est vraiment, on va employer les montants au prêt.
Fait que ce prêt-là sera fermé. Oui, Luc?
J'en fais la proposition.
Parfait. Au 4.5, c'est l'adoption du règlement numéro 2025-758. Et accordant une subvention à un organisme de promotion industrielle, si on fait par règlement à chaque année, la subvention qu'on verse à la société de promotion industrielle, donc un montant de 30 000 $ qui leur est alloué pour la FTI, et ça nous prend un proposeur, étant donné qu'on le fait par résolution.
Je le propose.
Gaston, merci. Au 4.6, c'est une adoption pour la mise à jour de la politique relative aux demandes de subventions, dont souscription et commandite. Donc, la politique a été revue parce que ça datait quand même là, elle était 2013, si je ne me trompe. Donc, il y avait des éléments là-dedans qui devaient être ajustés, dont, entre autres, on a souligné le fait que pour les demandes d'encouragement ou de soutien à des défis sportifs ou autres, qu'il fallait que ce soit, on a précisé qu'il fallait que ce soit pour des résidents de Sainte-Claire. On a aussi ajouté dans l'énumération des causes ou des populations à soutenir, les aînés qui n'étaient pas nommés, donc on soutient la jeunesse et les aînés. Puis il y avait aussi dans notre politique le caractère des activités culturelles, patrimoniales ou religieuses. Donc vous comprenez, on a retiré le religieux là, de la politique. Donc c'est une mise à jour avec ces quelques éléments-là là, dont je vous fais part. Ça nous prendrait une proposition. Merci Sylvie. En 4.7, c'est une demande de modification de l'ensemble de location de la sœur Alfred Gagnon qui nous est parvenue par l'association des AA de Sainte-Claire qui loue la salle Alfred Gagnon tous les lundis, c'est-à-dire hebdomadairement. On avait une entente qui avait fixé le coût à 30$ par semaine compte tenu que c'est différent d'une location mensuelle ou occasionnelle. Là. Et ils nous ont demandé si on était capable de réduire le coût et considérant que les locataires à chacune des soirées font leur entretien du bâtiment, on n'a pas à payer davantage de frais d'entretien ménager. Donc le conseil a accepté la nouvelle proposition et que le coût soit fixé à 20$ par semaine, par lundi, ils sont là tous les lundis, et que la directrice soit autorisée à en faire la signature. Jocelyn. En 4.8, c'est une consultation dans le cadre du projet de planification des besoins d'espace du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Excusez-moi. On a tous je sais pas si c'est sec ici, mm-hmm. Ce soir, mais on a toute la gorge qui pique. Donc, c'est un exercice qui revient deux fois par année. Vous nous voyez toujours aller avec des consultations du Centre de services scolaires. Cette fois-ci, le Centre de services scolaires, pour répondre aux besoins d'espace, sa proposition dans le document qu'il va transmettre au ministère et que pour notre secteur là, de Sainte-Claire et Saint-Ancienne, ainsi que Honfleur, pour le primaire, on est les trois dans le même secteur, le Centre de services scolaires va déposer que le projet soit la construction d'une école primaire neuve de 15 classes à Saint-Anselme ou les agrandissements simultanés des écoles Provencher et Morissette. Donc, sans vous faire la lecture entière de cette résolution-là, bien sûr, le conseil, on a un gain du fait que l'année précédente, ce n'était que la construction qu'il demandait au ministère. Là, il y a une étude actuellement en cours pour la faisabilité des agrandissements des écoles. Cette étude-là va être déposée au 30 juin. Donc, avant d'avoir les résultats pour mieux analyser l'ensemble de ces projets-là, la municipalité de Sainte-Claire signifie au centre de services scolaires qu'on apprécie que soit nommé le projet d'agrandissement plutôt que uniquement la construction, mais on leur réitère également l'importance pour notre communauté de conserver tous les services du primaire à Sainte-Claire, également que de continuer de tenir compte de tous les appuis qu'on a reçus dans le milieu par des partenaires socio-économiques et la population. Puis dans le libellé de leur proposition, là, que si l'option immobilière des agrandissements était retenue, il signifie qu'il se pourrait qu'ils aient besoin de terrains excédentaires à Sainte-Claire. Donc, on fait ajouter à leur résolution qu'un terrain a été ciblé par la municipalité si des espaces excédentaires s'avéraient nécessaires au projet d'agrandissement. Espaces qui pourraient être pour du stationnement, espaces excédentaires, autant pour du stationnement plus que pour le nouveau bâtiment ou l'agrandissement du bâtiment. Donc, voilà l'ensemble de la résolution que nous avons pris soin de bien nommer toutes les considérations et les attentes de la communauté puis de la municipalité de Sainte-Claire quant à l'agrandissement de l'école Morissette. Ça nous prend un proposeur pour que soit transmis. Yves, pour que soit transmis la résolution. En 4.9, c'est l'acceptation de la lettre d'entente signée pour affectation en dehors de l'unité d'accréditation. Émilie, je te laisse résumer.
Oui, en fait, c'était une entente qui a été faite avec le syndicat là, qui est présent ici à la municipalité afin que l'on puisse mobiliser l'équipe là, au travail là, quand il y a l'absence d'employés ou de personnes qui travaillent à la municipalité pour un certain temps. Disons que des fois, c'est un entre-deux, le temps qu'on embauche quelqu'un ou le temps que des fois, s'il y a quelqu'un qui part en congé de maladie ou un congé prolongé. À ce moment-là, on a demandé là, de pouvoir affecter des tâches là, aux employés qui sont à l'extérieur de leurs tâches normales. Donc, c'est en gros là, l'entente qui a été faite avec les employés de la municipalité.
Ça nous prend le proposeur pour l'acceptation de cette entente. Je propose Guylaine. Au point 4.10, c'est une confirmation d'embauche pour le poste d'entretien paysager emploi saisonnier à la municipalité. C'est un contrat de 15 à 20 heures semaine. Donc, nous avons passé des entrevues de sélection pour, on a reçu deux candidatures qu'on a appelées en entrevue et nous avons retenu la candidature de Mme Nathalie Coulombe, qui est de Sainte-Claire, qui a beaucoup d'expérience en termes d'horticultrice puis qui a travaillé dans divers milieux, quand même depuis une vingtaine d'années en termes d'entretien. Donc, c'est elle qui aura le poste à Sainte-Claire saisonnier pour l'entretien paysager.
Je vais en faire la proposition.
Une grande proposition. Merci. Nous avions aussi un affichage qui était pour l'embauche d'un auxiliaire aux travaux publics saisonniers. Donc, la personne qui sera en fonction d'avril à novembre pour soutenir l'équipe des travaux publics et particulièrement pour l'éco-centre. C'est la nouvelle ressource qui aura la charge des heures d'ouverture puis du soutien à la population à l'éco-centre. Donc, cette fois-ci, nous avons retenu, après 4 personnes reçues en entrevue, nous avons retenu la candidature de M. Mathieu Landry, qui débutera en avril jusqu'à novembre à peu près cet emploi, qui est de 30 à 35 heures semaine pour ce poste-là.
Je le propose.
Sylvie. En 4.12, c'est la résolution pour la signature de l'entente dans le projet d'acquisition de parcelles de terrain par le ministère du Transport dans le cadre de la réfection d'un pont sur le chemin de la rivière et du chemin. Dans le fond, le ministère du Transport, pour pouvoir procéder à ses travaux de réparation du pont, doit, selon leurs normes, des ingénieurs, là, doivent acquérir des petites parcelles. Émilie vous montre ça plus particulièrement. C'est minime.
En fait, ce sont vraiment des petites parties qui constituent parfois juste un petit triangle, comme ici, où eux autres, ils vont faire des travaux au niveau de la réfection du pont ici, sur la rivière du chemin. Donc, ce sont, si vous voyez le petit point ici, là, le petit triangle ici, il y en a un autre ici. En fait, il y a 4 sections, il y en a un autre ici. Fait que ce qui nous concerne, c'est vraiment la partie de la municipalité, là, qui sont vraiment là, dans les coins de ces petites parcelles de terrain-là ici. De toute façon, c'est des procédures qui sont courantes là, au niveau du ministère là, quand ils font des réfections de ponts, parce que parfois ils vont aller élargir ou aller travailler sur ces sections-là. Donc, ils ont la possibilité aussi, la loi leur permet là, de nous exproprier, en fait. Là, ils ont le droit, là, si on, advenant qu'on n'aurait pas une entente là, comme celle-là aussi. Là.
Donc, mais là, l'entente est pour une somme
de 500 $ là, pour
qui vont verser à la municipalité pour l'acquisition de ces parcelles. Donc, ça va pour l'ensemble des membres du conseil. Jocelyn, qui autorise la directrice à signer les documents. On arrive au point 5, les dossiers de services publics. En 5.1, c'est le dépôt de la décision du ministère du Transport pour les demandes que nous avions faites concernant la mise en place de panneaux d'arrêt et la modification des limites de vitesse. Donc, pour ce soir, c'est une lettre qui vient d'arriver. Donc, pour ce soir, c'est un dépôt au membre du conseil qu'elle sera traitée. Par ailleurs, on vous reviendra s'il y a des modifications qui se font à notre règlement de sécurité publique. En 5.2, c'est une demande de la Sûreté du Québec pour la reconduction des priorités annuelles de la municipalité. Je te laisse expliquer.
Oui, en fait, il y a toujours des priorités qui sont travaillées avec l'équipe de la sécurité publique. Au niveau de Sainte-Claire, il y avait eu des priorités qui avaient été nommées, que ce soit près de l'usine Prévost, la sortie des employés, le pouvoir gagnant, chez l'église, Ensuite, les zones scolaires, les zones sportives au niveau du complexe sportif, augmenter la surveillance de policière la nuit et le contrôle de la vitesse des véhicules lourds à l'intersection de la rue de l'Église et du boulevard Végan. Donc, ce qui a été demandé cette année par l'équipe là, de sécurité publique, c'était de reconduire les priorités. Ce que ici a été discuté, en fait, c'est de reconduire les priorités, mais d'ajouter la surveillance aussi dans les rues La Rochelle et du Moulin.
Donc, ça nous prend une proposition pour envoyer nos priorités à la SQ.
Bon, je fais la proposition.
Guylaine. Au point 6, les dossiers d'aménagement d'urbanisme et de développement. En 6.1, c'est la nomination des membres et d'un substitut du comité de démolition dans le cadre de l'application du règlement relatif à la démolition d'immeubles, qui est le règlement numéro 2023-733. C'est un exercice annuel que l'on doit faire pour ce comité-là, que de renommer annuellement les membres qui le composeront. Donc, compte tenu de la fin du mandat qu'il reste jusqu'en novembre, la proposition est à l'effet de reconduire la participation de Sylvie Leblanc, conseillère, Jocelyn Lehouillier, ainsi que moi-même, puis que la mairesse agira à titre de présidente du comité. Donc, puis ce mandat-là sont pour une année, mais pour cette année-ci, ce sera jusqu'en novembre prochain.
Il y avait des substituts.
Oh, c'est vrai, ça nous prend aussi un substitut. Merci de nous le rappeler. Donc, c'est un autre membre du conseil qui pourrait être à titre de substitut, Luc. Merci. Et ça nous prend un proposeur. Steve. Voilà pour le comité de démolition. En 6.2, c'est un avis de motion du projet de règlement 2025-759 qui vient modifier le règlement de zonage 2022-720. Émilie, je te laisse nous expliquer.
Oui, en fait, il y a des modifications au règlement qu'on doit effectuer par rapport à l'arrivée là, dans la municipalité des conteneurs de récupération pour les nouveaux conteneurs consignés. En fait, c'est la compagnie, le Consigne Action, là, qui dépose des conteneurs. Actuellement, si on voulait qu'ils aient le droit dans la municipalité là, de mettre des conteneurs à la disposition des gens, là, on devait faire une modification. Fait que ça concerne que cette modification-là pour pouvoir leur permettre là, de mettre les conteneurs dans la municipalité.
Ça nous prend une proposition.
Ça prend un conseiller qui donne l'avis de motion.
Oui, c'est vrai, pour l'avis de motion d'abord. Gaston, merci. Et en 6.3, c'est l'adoption du premier projet de règlement qui vient modifier le règlement sur les conteneurs consignés. Ça nous prend une proposition pour le premier projet. On se dit. Merci. En 6.4, les membres du conseil ont reçu le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme qui a eu lieu le 1er avril 2025. C'est un dépôt. À ce que CCU a été traité 6.5, une demande de PIA, qui est une rénovation du bâtiment complémentaire au 108 rue principale.
Oui, je vais nous résumer. Parce qu'il y a eu une demande au niveau du comité consultatif d'urbanisme qui a recommandé, au fond, là, la modification là, dans le plan PIA pour le 108 rue principale. Ça se pouvait être sur le revêtement, là, la demande qui a été.
C'est le garage de la maison du docteur Chabot, là, qui appartient à la société du patrimoine, là, qui a déjà été refait d'une façade, puis là, deux autres façades à recouvrir, changer le revêtement. Donc, est-ce qu'il y a un proposeur? Il y en a encore. Au point 7, les dossiers de loisirs, culture et développement communautaire. En 7.1, le suivi des comités. Je pense qu'il y avait le comité Sainte-Claire en fête.
Sainte-Claire en fête, on va faire une soirée pour les personnes intéressées à devenir bénévoles pour la dernière fin de semaine de juin pour les festivités. Ça comprend la semaine d'après. La semaine d'avant, la semaine d'après et durant les festivités. Ça serait le 24 avril qu'on fera la soirée d'information pour ça. La salle est déjà réservée, c'est correct, c'est le 24 avril. On va la réannoncer dans le bavard et ça va apparaître aussi sur Facebook. On peut déjà s'inscrire pour être bénévole, déjà sur Facebook, on clique sur le lien, on peut inscrire tout de suite notre nom pour être bénévole, dire l'endroit où on aimerait faire notre bénévolat aussi là-dessus. Donc, puis aussi, on rappelle que le premier, là, les ventes de billets pour la pré-vente, ça termine le 30 avril au prix moindre. Et ensuite, à partir du 1er mai, ça va être plus cher un peu pour les billets pour assister au spectacle. Fait que dépêchez-vous à acheter vos billets avant le 30 avril. Et à partir du 1er mai, on va avoir les billets de brunch du dimanche qui vont être à vendre à partir du 1er mai sur le site Le Point de Vente. Fait que surveillez Facebook, Sainte-Laurent-Pèze, vous allez avoir des informations.
Merci Sylvie. En 7.2, c'est une demande justement de l'organisme Sainte-Claire en fête en lien avec les assurances qui sont nécessaires, les assurances de responsabilité et les frais qui sont occasionnés pour la durée du festival.
Donc en fait, c'est l'organisme qui a fait une demande à la municipalité de pouvoir recouvrir les frais d'assurance, là, entre autres pour la partie aussi VR là, qu'il va y avoir là, d'installer. Donc ça couvre les assurances là, du festival au montant de 1199 $ taxes incluses.
Je vais en faire la proposition.
Luc le propose. Et ça nous amène au point 8, les dossiers autres. En 8.1, nous avons reçu dans la documentation le tableau des permis qui ont été émis pour l'ensemble des municipalités de la MRC de Bellechasse, la totalité des permis en 2024. Écoutez, c'est intéressant de voir, tu l'as sorti, Émilie, c'est ça, qu'au niveau de la municipalité, on a une valeur au permis de $23,023,567. Qui ont été émis pendant l'année 2024 et ça se décline à 2,5 millions qui sont des permis pour les fermes, 6,9 millions pour les commerces ou industries et 13,5 millions de valeur en résidentiel là, qui ont été émis à la municipalité de Sainte-Claire en 2024. Donc, on voit quand même là, d'investissement important. Là. On est une des municipalités, là, la deuxième, je crois, sur le tableau, je ne le vois pas bien, là, mais pour l'ensemble de la MRC, là, où il y a eu beaucoup d'activités. En 8.2, les membres, c'est un dépôt, en 8.2, les membres ont reçu le procès-verbal de la séance du 19 mars du Conseil des maires de la MRC. En 8.3, nous avons reçu le bilan du programme de gestion des matières résiduelles, le PGMR de la MRC de Bellechasse. C'est un bilan par communiqué que vous avez probablement vu passer aussi dans les médias et sur Facebook. Là aussi, quand même, c'est important de souligner qu'il y a eu pour l'ensemble de la MRC de Bellechasse une réduction de la quantité de matières résiduelles qui est allée à l'enfouissement, ce qui est l'objectif ultime de moins enfouir, et que tout ça, ben, c'est grâce aux efforts de la population en matière de récupération, de compostage, et aussi grâce aux efforts et aux moyens qui ont été mis en action dans le plan de gestion des matières résiduelles. Fait que, puis si on considère qu'il y a eu une moins grande quantité, mais qu'il y a eu un accroissement de la population dans la MRC pendant cette période-là, là, fait que c'est de bonnes nouvelles pour notre site d'enfouissement, pour le conserver en meilleur état de fonctionner encore plus longtemps. Au 8.4, c'est le dépôt du suivi budgétaire au 31 mars, un document qui a été déposé aux membres du Conseil sur l'année 2025, bien sûr. En 8.5, nous avons une motion de félicitations pour les faire la liberté. Je te laisse aller, Émilie, pour changer.
Donc, le Conseil municipal de Sainte-Claire tient souligné avec fierté et enthousiasme l'excellente performance des Faire la liberté paysagistes qui ont remporté la première place dans la catégorie qualité du service à la clientèle Calimètre dans un congrès des maîtres paysagistes tenu le 18, 19 et 20 février à l'hôtel L'Entourage sur le lac au lac Beauport. Cette distinction bien méritée reflète le dévouement et le professionnalisme de toute l'équipe des Faire la liberté paysagistes qui contribue à offrir un service exceptionnel à leur clientèle, à rehausser le rayonnement de notre communauté. C'est avec plaisir qu'on leur adresse nos plus sincères félicitations pour cette belle reconnaissance et on leur souhaite succès continu dans leur projet futur. Donc, une copie de cette résolution-là leur sera transmise. On a une autre motion de félicitations.
Oui, que je peux excusez-moi, continuer. Bien sûr, c'est le 8.6. Motion de félicitations cette fois-ci pour Jonathan Fauchon.
Donc, Jonathan Fauchon, qui a démontré là, au cours de la saison régulière de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, là, une excellente capacité de relever avec brio les défis à s'imposer comme un joueur dominant de la Ligue. En fait, une performance remarquable là, avec une récolte impressionnante de 103 points sur 64 matchs. Ça affirme vraiment son talent exceptionnel, sa constance sur la glace. Et en conséquence, là, on lui adresse nos plus sincères félicitations pour cette incroyable saison, son travail acharné qui font de lui un modèle d'engagement et de détermination. Donc, cette motion lui sera transmise.
Merci. Au point 9, c'est l'approbation des comptes. Les membres du conseil ont reçu les comptes payables au 7 avril. Les questions ont été répondues tout à l'heure. S'il n'y a pas d'autres nouvelles questions, ça prend une proposition pour accepter les comptes à payer. Bien. Au point 10, la lecture de la correspondance, nous avons reçu en 10.1 une lettre de remerciement de l'organisme Frigo Plein. C'est pour le don que nous avions fait dans le cadre de la cueillette de la solidarité en décembre dernier. Au point 11, les affaires nouvelles. En 11.1, nous avons une invitation spéciale pour le souper annuel de Radio Bellechasse et Chemin, qui cette année aura lieu à la Quête Chemin. Radio Bellechasse alterne entre Bellechasse et les Aides-Chemins pour la tenue de leur événement. Donc, cette année, ça aura lieu jeudi le 22 mai à l'aréna de la Quête Chemin pour leur souper bénéfice annuel. Donc, après discussion tout à l'heure, il y a eu une proposition qu'on achète deux cartes pour Sylvie Leblanc et moi-même pour participer à cet événement bénéfice pour Radio. Ça nous prend une proposition, si c'est toujours le confirmé. Luc. Au point 11.2, cette fois-ci, c'est une invitation qui est au gala de Saint-Anselme, leur gala reconnaissance 2025, événement qui va avoir lieu samedi le 10 mai. Toutefois, personne n'était disponible pour aller à l'événement, donc nous ferons savoir que nous n'y serons pas pour cette année. En 11.3, c'est une demande de commandite pour l'album de finissant du CFR de Bellechasse, là, le centre de formation en entreprise et en récupération qui est à Saint-Raphaël, mais qui couvre tous les jeunes de Bellechasse qui ont des besoins particuliers de formation. Donc, pour leur album de finissant, il y a eu la proposition d'un don de 100$ pour contribuer. Guylaine, merci. En 11.4, cette fois-ci, c'est une demande de participation au souper bénéfice pour les loisirs de Saint-Lazare. Donc, après discussion, nous avons convenu cette fois-là aussi qu'il y aurait l'achat de deux cartes au coût de 60$ chacune pour Sylvie Leblanc et moi-même pour leur souper bénéfice pour au bénéfice de leurs loisirs municipaux. Ça va avoir lieu samedi le 26 avril au centre communautaire à Saint-Lazare. Donc, une proposition. Yves. 11.5, c'est une demande de l'école Morissette, une demande de participer pour contribuer à l'achat de chocolat dans le cadre là, d'une course au coco de Pâques là, qu'ils organisent à la fin avril. Donc, le conseil est très intéressé à pouvoir les soutenir dans l'organisation de cet événement-là avec la proposition d'un don de 100$. Ça nous prend un proposeur.
Bonjour.
Sylvie. Ça nous amène au point 12, la période tant attendue de questions. Donc, pour ceux qui sont moins, disons, habitués à la séance, on se donne une période de questions de 30 minutes où on vous invite à prendre la parole, je vous invite à tour de rôle en demandant la parole, puis on y va d'abord d'un premier tour pour essayer que tout le monde ait son tour à l'intérieur du 30 minutes, puis sinon, si le temps n'est pas écoulé, ben vous pouvez revenir avec une deuxième question. Mais avant de donner la parole aux citoyens, ça n'imputera pas le 30 minutes, je voulais revenir avec la question M. Vaillancourt concernant le dépôt en neige, que je vous disais qu'on avait sorti les données pour 2023 et 2024, sauf que je ne les avais pas avec moi à la dernière séance. Les données de 2025, comme on avait de 2000, c'est ça, qui sont de cet hiver-ci, là, ne sont pas disponibles encore parce qu'on n'a pas fini de recevoir la facturation, puis... Donc, pour vous dire qu'en 2023, le dépôt à neige, il y a eu 6203 $ qui a été facturé, qui s'est réparti en 5 entreprises. Ça a correspondu à peu près parce que les coûts, le tarif n'est pas le même selon les types de camions, là, le nombre de roues ou de tonnage. Là. Fait que ça correspond à peu près à 120 voyages là, de camions qui, pour le dépôt à neige en 2023. Ça a été un hiver plus rigoureux que 2024. 2024, il y a eu 770 $ de facturés, qui s'est réparti aussi à peu près dans les 4 mêmes entreprises. Puis ça a correspondu à peu près à 15 voyages de camions, mais si on se rappelle, 2024, l'hiver a été assez clément. Donc, voilà pour ce qui a été, facturé à ce jour pour le dépôt à neige. Ça vous va, puis on aura possiblement, je ne sais pas si ce sera pour la séance de mai, mais sûrement en juin, où on pourra avoir les données pour l'année 2025. OK. Alors, on revient à la période de questions. C'est parti. Je vous invite à ceux qui veulent prendre la parole. Oui.
Je reviens sur le dépôt neige.
Oui.
Le dépôt neige, il coûte à peu près, comme cette année, en 2025, il coûte combien pour juste pousser la neige dans le bassin? 15 000?
Écoutez, c'est pas une donnée d'opération, vous voulez dire,
ouais,
là?
Ouais.
À l'intérieur du contrat de...
C'est à peu près 10 000, un montant de 12 000, toute l'année, en 2025, maintenant vous avez octroyé 15 000, là,
pour cette portion-là à l'intérieur du contrat qu'on a avec les entreprises La Fontaine.
C'est
ça. OK.
Ça veut dire que
vous avez...
Il rapporte 6 000, puis il coûte 12 000 à toute l'année, il n'y a pas grand-chose dans le tableau.
Ben écoutez, le dépôt à neige n'a pas été fait pour être rentable, il a été fait pour se conformer à des exigences. Un dépôt à neige, c'est une dépense pour une municipalité, c'est une exigence du ministère de l'Environnement là, d'avoir un lieu dédié avec un principe particulier d'écoulement de cette neige-là. Là. Fait que l'objectif n'est pas qu'il soit rentable. Là. L'objectif, quand on a mis les coûts pour autres camions, que le contrat à notre propre déneigeur. D'ailleurs, dans les 4-5 entreprises qui l'utilisent, là, pour autre entretien que celui de la municipalité, entendons-nous, là, La Fontaine est le plus gros consommateur qui nous facture. C'est-à-dire que l'on facture pour autre, en dehors de son contrat avec la municipalité, là, quand la semaine passée, le mois dernier, là, vous ne saviez pas trop. Donc, voilà, l'idée du dépôt à neige, c'est pas de le rentabiliser, là, c'est d'avoir une compensation pour l'utilisation d'entrepreneurs qui en ont besoin.
En fait, je peux me permettre un commentaire par rapport à une rentabilité quelconque qu'on pourrait trouver, parce que ça voudrait dire qu'on aurait peut-être une possibilité d'avoir un impact sur le nombre de tempêtes de neige qu'on aurait dans une année. Là,
c'est pas une rentabilité, c'est parce que le dépôt à neige, au départ, quand il a été construit, il a coûté environ 500 000 à construire.
Certainement, oui.
Il y a eu un prêt d'enregistrer 917 000 sur le dépôt à neige. En 2025, le 7 avril aujourd'hui, là, sur 917 000 de prêts, comment il y a d'utiliser sur le prêt de dépôt neige?
Oui, ben je pense que ça donne que j'ai la liste des prêts, bien sûr, là, ouais, qu'on a regardé avec les états financiers. Oui, c'est ça. L'emprunt pour le dépôt à neige n'a pas été de 900 000, il a été de 455 000. Bon, 600 000.
M. Coron a dit l'année passée qu'il avait signé, puis l'emprunt du dépôt à neige était en 917 000.
Il y a eu une période où l'estimation des coûts pouvait aller, puis vous me corrigerez, là, jusqu'à 900 000, mais au moment final du mandat, du contrat, de la dépense, puis du règlement d'emprunt, puis écoutez la liste des règlements d'emprunt là, qui a été fait, le dépôt à neige en 2022. Sur l'emprunt?
Oui.
Oh, je ne suis pas sûre que j'ai cette donnée-là, des pots en neige. Ben, c'est pour vous dire que c'était autour de 600 000 $ l'emprunt relatif au dépôt en neige. Fait que, bon, ce qu'on entend, là, on prend votre commentaire, là, mais... Vous voulez savoir combien il reste à payer sur le dépôt à neige?
Comment je vais l'utiliser sur le montant initial qui est emprunté? Parce que, moi, le montant initial, M. Carrard avait demandé maintenant qu'il avait signé 917 000 sur un dépôt à neige, c'est là que c'est 500 000 à faire.
On va valider le montant total de l'emprunt.
Il y a eu deux portions. Il y a eu une première phase là, qui a un montant de 470 500 qui a été emprunté, puis ensuite une deuxième phase de
85 000.
Là. Ouais, c'était les emprunts de départ. Là. 470 000 plus 85 000.
Mais la question, oui, c'est combien ça a coûté?
Ça a coûté, on ne pouvait pas demander, c'est ça.
Sur le prêt.
Le prêt relié à cette adresse-là, on est tombé sur les erreurs.
Parfait.
Merci.
On poursuit. Oui.
Madame Marais, tout à l'heure, j'ai posé une question très intéressante au comptable, là, ici présent. Lors de la réunion, on a eu une super grosse réunion, si vous vous souvenez, il y a moins qu'un an, la salle était pleine, complètement pleine ici. Vous avez, avant la réunion, a pris la parole pour expliquer ensemble aux contribuables de Saint-Pierre que la dette de 12 millions n'était pas une dette. C'était autre chose, c'était un emprunt. Comment vous pouvez m'expliquer que vous dites que lorsque vous êtes en attente de subvention, ce n'est pas une dette alors que le comptable vient nous confirmer que oui? Pouvez-vous m'expliquer la différence?
Oui, je suis contente que vous posiez la question, Mme Aubin, parce qu'écoutez, la dette, c'est sûr qu'on a de la dette à la municipalité. Une municipalité, ça travaille avec un endettement. Donc, ce que je me rappelle avoir dit, c'est que le montant total qui est exprimé, comme on l'a vu avec M. Boucher tout à l'heure, avant que vous arriviez, là où on en a discuté avec les membres du conseil, là, on a un endettement total, okay, sur lequel il y a le coût réel d'imputer à la taxation. Là. Exemple, sur cette dette-là, il y a un emprunt qui est pour l'agrandissement du CPE il y a quelques années, que l'on paye la plupart du temps sur 15 ou 20 ans. Donc, l'agrandissement du CPE nous est remboursé en cours d'année par les frais de location au CPE. Fait que c'est dans ce sens-là que je disais que c'est pas des subventions qu'on attend, c'est au moment où on fait un investissement, une dépense. Prenons l'exemple rue de l'Église, rue principale, rue de la Fabrique. Quand on a refait Aqueduc et Goût, là, c'est le dernier gros projet, là, on savait que nous allions avoir 2,9 millions de subventions et un règlement d'emprunt, mais il faut emprunter le montant de la subvention du gouvernement du Québec parce qu'il ne nous la verse pas au moment où on fait les travaux et on paie les travaux. Si on emprunte sur 20 ans, il nous la verse sur 20 ans. Donc, ce montant-là, pour nous, notre coût net des travaux, exemple, était de 2,5 millions, mais au final, sur notre règlement d'emprunt, c'est autour de 5 millions parce qu'on faut emprunter le montant de la subvention. Je vais vous donner un autre exemple qui est toujours dans notre dette. On a investi comme municipalité, un de nos règlements d'emprunt, ça a été l'achat, celui qu'on vient de fermer ce soir, là, l'achat des terrains pour le développement de l'érablière, puis un autre règlement d'emprunt qui était pour les travaux, pour faire les infrastructures, les rues et tout ça. C'est autour de 1,6 million le coût de ces travaux-là. On a fait un règlement d'emprunt de 1,6 million. Par contre, en deux années, on a 1,4 million de ventes de terrains. Donc, c'est aussi des projets qu'on appelle, qui nous demandent d'emprunter, puis qui est un règlement d'emprunt, puis qui est une dette, mais qui est une partie, puis c'est ce que je disais l'an dernier, une partie de notre dette n'est pas imputée à la taxation. Elle est selon le projet, exemple les terrains, ben écoutez, au lieu d'être sur 20 ans, là, on va avoir fini à notre renouvellement par la vente des terrains. Des fois, c'est des investissements pour récolter par après de l'argent. Fait que c'est ça la précision de la dette. Là. Oui, au chiffre que nous avons, c'est les tableaux de la municipalité que j'ai, puis nous avons 12 466 000 d'inscrits dans notre dette à long terme, mais dans l'année, on ne payera pas de règlement d'emprunt puis de capital sur 12 millions parce qu'il y a certains emprunts, des revenus qui vont avec. Puis peut-être le dernier détail qui est intéressant dans ce qui s'est discuté avec Alain, c'est qu'au fond, l'écart entre 2022 et 2023, du montant de la dette, là, qui, oui, là, apparaît un gros écart, où vous avez très clairement demandé est-ce que la dette a triplé. Et oui, mathématiquement, la dette a triplé, sauf que rappelons-nous qu'en 21-22, on avait des projets d'investissement pour justement le projet de la rue principale et de la fabrique. C'est un projet planifié pour 2021. Si vous vous rappelez, en 2021, on était en pandémie, puis parce que notre subvention nous a été accordée en fin 2020, début 2021, puis on n'a pas pu réaliser les travaux, donc on n'a pas emprunté avant, là. Fait que c'est plus pour dire ça aussi, là. Il y a comme une croissance qui était de 2022 à 2023, qui apparaît énorme, mais dans les faits, c'est, il y a des dépenses qui auraient été faites les années précédentes pour une meilleure répartition de la dette.
Alors, en 2022, c'était comme ça aussi. Si on fait égal...
En 2022, on n'a pas pu faire les travaux planifiés, donc ils sont ramassés dans 2023.
Donc, je vais revenir
si je dois... Ça va? Oui?
Oui, on a parlé dans le fond du ministère des Transports et de l'asphalte tantôt. Je voulais savoir que l'an dernier, il n'était pas prévu que le ministère des Transports fasse l'asphalte sur le pont.
Oui, oui.
T'as-tu avancé ce dossier-là?
T'as-tu eu d'autres nouvelles, Émilie? Parce qu'on avait convenu dernièrement là, de faire des relances, là, parce qu'effectivement, c'était dans les travaux. Mais finalement, ils nous avaient écrit à la fin de l'été pour dire qu'ils faisaient du rapiéçage en 2024, mais qu'il était à refaire en 2025. Puis là, on a pas, on en a parlé dernièrement là, dans les nombreuses relances. Vous voyez la quantité de points qu'on a à l'heure du jour, là, il y a du travail au bureau.
C'est seulement le pont qu'eux font l'entretien ou exemple la rue de l'Église ou la SEQ, c'est eux aussi. Là. La
salle
est quand même
mégano. Non, la eux, ville, eux, cette portion-là, oui, c'est eux qui le font. Ils avaient refait là, de principal à Bégin. Puis là, l'autre partie est à refaire.
Pas une couple de fois qu'on la demande.
Oui,
on l'avait reçu.
Un
ça répond à votre question. Autre question? Oui?
Oui, on parle beaucoup du dépôt à mèche. Moi, j'avais une question. Est-ce que vos corps plus à mèche, ils ne doivent pas aller au dépôt à mèche, juste en ligne sur une montagne de mèche, qui est vis-à-vis un ruisseau, disons-le? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vérifie la municipalité? Quelle est la responsabilité de s'assurer qu'ils n'ont vraiment pas à l'eau près parce que cette année, la mèche a tombé très rapidement? Mm-hmm. Nous, on s'est ramassé avec une rivière sur notre terrain avec un ponceau qui ne fournit pas. Tout le monde connaît l'antécédent de ce ponceau-là. Donc, on voulait savoir s'il y a des vérifications qui sont faites de temps en temps, parce que je ne suis pas sûre que l'environnement frustrait qui coûte la mèche directement dans le ruisseau. Que nous, c'est de la pelouse qui était inondée, mais c'est littéralement une rivière avec un
ponceau. Je peux répondre. En fait, comme il s'agit de terrains qui sont entre particuliers, en fait, les deux propriétaires sont individuels, la municipalité n'est pas impliquée parce qu'on ne sait pas nos terrains en tant que tels qui sont impactés. Au niveau du ruisseau, mais là, vous me parlez de l'amoncellement de neige sur les terrains. Donc, chaque propriétaire, selon la loi, est responsable de ses eaux. Donc, ça serait comme, c'est comme à vous de faire la démarche auprès de Prévost, là, quand vous avez quelque chose comme ça, là, qui vous arrive, là, de dire, moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, que ce soit mis en demeure ou quoi que ce soit, afin qu'ils puissent pouvoir, là, disposer là, si ça vous cause des problèmes sur votre terrain.
Vous avez vraiment. Fond, c'est plus parce que je le rattache au ruisseau parce que ça, c'est la municipalité qui a la responsabilité de veiller à ses gens qui sont dans le trap. C'est différemment des montagnes. Peut-être qu'il était moins familial, mais je suis les autres résidents passent souvent là. Puis...
Ben, dans le fond, le ruisseau en tant que tel, sa responsabilité d'ailleurs est à la MRC. Là. C'est pas pour rien qu'on attend encore énormément. Mais écoute, si c'est ça, il y a moyen peut-être de signifier à la MRC là, que un peu comme à la dernière séance, quelqu'un qui nous a rapporté que possiblement il y avait du rejet de la neige dans la rivière là. Donc oui, écoute, moi c'est oui, signifier à la MRC là que vous demandez.
Nous on fait les démarches là, de pouvoir aviser, mais c'est le plus qu'on peut faire de fournir l'information. Au niveau du recours, là, si jamais il y avait quelque chose qui vous cause un préjudice. On ne peut pas s'impliquer là, là-dedans. C'est pour ça que je disais, si vous voulez avoir quelque chose, si ça vous cause quelque chose sur votre terrain, là, puis que c'est vraiment dû au neige, comme vous dites, c'est vraiment ça que je vous invite à faire, là, de prendre les informations sur vos droits en tant que propriétaire là, de terrain. Là.
Autre question? Bon, OK, on va y aller. Monsieur Couture, je vais y aller en avant, en arrière, de côté, après. Oui.
Allez, Olivia.
Oui.
Le nouveau stock qui était ajouté au point de rivière le chemin et Caroline.
Oui.
Est-ce que c'est suite à une plainte ou c'est le conseil qui en a décidé?
Ça nous avait été porté à notre attention, mais c'est le conseil qui finalement, parce que c'est le respect du 50 km. Là, qui,
c'est une plainte qu'il y a eu de gouvernement?
Non. Comme si ça nous a été porté à notre attention, mais c'était une décision des membres du conseil là, de sécuriser cette section-là à 50 km.
Ouais.
Pourquoi?
Ben, parce que je voyage là 3-4 heures par jour, puis moi, j'ai rien vu d'abusif là en train de vitesse, en tout cas là. Puis je trouve ça un peu dépassé, mais d'un stop là, pour virer, pour comme la Caroline en fond.
Mm-hmm. Ça, c'est un
peu. Ça arrive peut-être comme de Samalachi, là.
Mm-hmm.
Mais en tout cas, on va faire avec, là, mais c'est un peu plate, là.
Oui, parce que c'est une question de sécurité, justement, parce que oui, je pense qu'il y a d'autres gens qui y circulent aussi, puis qu'il y en a que dès qu'ils ont quitté le pont, ils sont partis en grande pour le rang, là, où ça file bien.
Oui.
Mais c'est pas une plainte particulière. Oui. Donc,
tu tombes d'un petit quartier, de des maisons, puis tu vois, j'ai eu des jeunes, j'ai eu des jeunes.
Oui, il y a plusieurs années, mais moi, dans la tête, à moi, je ne sais pas ce que je vois. Ça ne suivait pas les limites, parce que là, je ne dis pas que c'est une génération de l'antenne. C'est ça. J'en avais une autre question, je vais laisser pour les autres, j'en reviendrai après.
Parfait, oui. Donc, on va y aller. Il faut une quinzaine de minutes, M. Couture, qui était après.
Le fossé que Mme parle.
Oui.
S'il n'y a pas un nom de ruisseau, ça appartient à la municipalité, ça appartient pas à MRC, ça, là.
Il s'appelle la branche 3 du ruisseau des ondes, il me semble, là, que dans la...
Le ruisseau des ondes, c'est ça. En haut.
C'est
en haut, il n'y a pas ça.
Ruisseau de la brique.
Oui, oui, c'est... pas des ondes, la brique. Mais c'est une branche du ruisseau la brique, oui.
Il est loin.
Okay.
C'est un fossé, c'est pas d'après la MRC.
En tout cas, on peut vous leur dire, Jessica, parce qu'il a été identifié dans l'analyse.
Il est dans les fils, il n'y a pas d'eau là pour toi.
Il sert à l'écoulement là, lors d'une pluie. Fait qu'on peut, si vous voulez qu'on vérifie, mais vous l'aviez reçu,
oui,
là.
C'est ça.
Il est considéré comme. C'est pour ça que je l'ai invité à communiquer avec la MRC. En toute connaissance de cause. Oui, donc on avait monsieur. Ah, Jessica, puis après ça.
Justement, par rapport au développement, je ne sais pas du tout comment vous appelez, parce que c'est la bien ici. Il y a deux pneus mécaniques qui sont parqués là, ça fait plus qu'une semaine. Est-ce qu'il y a eu du développement au niveau de l'environnement? J'imagine qu'il y a propos de deux pneus mécaniques là pour le
développement de M. Poulin.
C'est toujours à l'attente d'avoir les documents, les autorisations. Puis, ils ont hâte de commencer, là, je pense que.
Oui,
je pense que c'est ça. C'est vraiment une question de.
C'est sensiblement la même question. Je veux savoir s'il y a eu des avancements. Puis pour les rues, dans le fond, est-ce que la municipalité va faire des rues d'accès à Pont-Aven ou c'est le monsieur qui va faire les rues qui va les donner à la municipalité?
Mais écoutez, il n'y a rien d'arrêté là-dessus, mais dans les plans qui ont été préliminaires, là, qui ont été vus, les rues vont faire partie du projet du promoteur et après seront cédées à la municipalité. Donc, on avait Mme Aubin, je pense, dans un deuxième tour. Oui. Présentation des du rapport financier.
Alors, j'ai remarqué qu'on a dit qu'il y avait eu un surplus sur le juridique.
Oui.
Alors, la question, combien avez-vous investi en avocats, en services juridiques dans l'année qu'on vient de terminer?
Écoutez, c'est une donnée, si vous la voulez clairement, qu'on devra vous ramener parce qu'on n'a pas le détaillé avec nous ce soir, là. Puis, qu'on vous rende une information qu'on pourra vous faire suivre, là.
Incluant les causes qui sont en cours ou vous allez exclure les causes en cours. Est-ce qu'on sait qu'il y a beaucoup de citoyens sanitaires qui ont eu des poursuites de part et d'autre pour n'importe quoi? Donc, je sais qu'il y a toujours eu des bons avocats qui ont été là pour défendre la municipalité. Puis, justement, tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait eu un surplus, qu'il y avait eu plus face aux dépenses juridiques. Alors, on veut voir jusqu'à quel point vous prenez l'argent des contribuables pour poursuivre les contribuables de jeune place.
Bien, écoutez, je vous dirais d'avance, je ne sais pas le montant, on va vous le ramener, mais il y a eu aussi les poursuites contre la municipalité pour lesquelles il a fallu payer aussi des avocats pour défendre la municipalité.
De la municipalité, il y a beaucoup de contribuables de jeune qui ont eu des poursuites, qui sont poursuivis. On veut savoir combien vous avez investi dans la dernière année à poursuivre les contribuables de jeune place.
Bien, écoutez, nous, on ne vous sortira pas les montants par cause, là. On va vous sortir les frais juridiques que, oui, font partie de nos états financiers pour diverses raisons, comme je vous dis, là, pour se défendre tout autant aussi. Donc, on n'ira pas par cause, mais on peut vous amener le total des frais juridiques. Ben, écoutez, demain, je ne suis pas certaine, mais on peut vous rappeler dans les prochains jours, Mme Aubin. Dans les prochains jours, je le note.
Merci.
Et quand vous parlez là, que la municipalité a poursuivi... Là,
c'est avant vous.
Oui, mais c'est juste parce que je veux juste faire la distinction entre une poursuite au niveau du droit civil ou une poursuite au niveau des manquements, au niveau des lois municipales. Là. Est-ce que c'est de ça que vous parlez?
Sociale et générale.
Parce que, en fait, la municipalité n'a pas le choix de d'appliquer ces règlements. Donc, c'est sûr que si on parle de qu'il y a eu des poursuites au niveau de la cour municipale pour des manquements à de la réglementation, ça c'est tout à fait normal que la municipalité là, ait des frais à ce niveau-là. Surtout, je veux savoir c'est quoi vous dites à ce niveau des dossiers juridiques totaux. Ben,
on va regarder, on pourra faire les catégories. oui, alors il y avait M. Poulgar qui avait demandé une deuxième question.
Vous n'aviez pas un problème de 2 ans environ de réfection de rein carolienne pour pavé, je ne sais pas trop quoi, cette structure?
Oui, d'ailleurs, c'est inscrit au PCI, route Caroline, est-ce qu'elle est 2025 ou 26, je ne sais pas le, en mémoire, là, mais oui, c'est toujours.
Mais quand vous parlez de réfection, c'est refaire le rein au complet ou vous mettez juste une couche de.
C'est une couche d'usure, Caroline, vous rappelez-vous? Une couche d'usure, hein? Pardon? Plus qu'une couche d'usure, hein?
C'est un fait au complet, comment dire?
C'est ça qu'on a parlé, là,
c'est ça, il est au PTI, là, au programme triennal des immobilisations, là.
Pour cette année, probablement 2026.
2026, oui. Bon.
Quand vous faites des travaux de la sorte, y a-t-il des subventions reliées à ça?
Oui. Oui. Soit le programme d'aide à la voirie locale ou le programme de la TEC qui pourrait servir aussi en partie. Là,
Il y a des demandes qui sont faites, mais c'est sûr qu'eux, ils ont déjà une classification. J'ai travaillé là-dessus là, la semaine dernière sur la classification là, en termes de d'importance là, au niveau du Québec. Là, ils vont donner leur subvention aux routes qui vont avoir été classées là, plus critiques que d'autres, là, si on veut. Là, fait qu'il y a vraiment y a beaucoup de municipalités qui vont faire des demandes. Mais on est un peu à la merci de leur jugement, leur critique là, de l'évaluation de nos routes. Là. Fait que c'est sûr que si on fait la demande, ça faut si on n'est pas prioritaire hein, dans les. Il faut vraiment que les routes soient considérées comme étant prioritaires là, à leur niveau.
Parce que ça me dit une.
On l'espère.
Le projet comme tel, c'est-tu le rang complet? Puis j'ai vu,
Je pourrais pas vous dire là, écoutez, le projet exactement, là, mais par contre, on peut vous ramener l'information si vous voulez. Là. Un petit coup de fil, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Là.
Juste pour savoir, parce que je vous avais entendu parler un peu, là, mais je pense que ça serait dû très dû, là.
Oui, bien d'accord avec vous, puis...
Mais ça, ce serait pas possible, je sais pas, moi, j'avais déjà parlé de ça au mon maire antécédent depuis plusieurs années, là, puis ça ne s'est jamais fait. Mettons, fixer des objectifs, mettre un 5 km par année, je sais pas, pour faire 5 km par année, pour faire un tour des reins partout, puis mettre ça à l'ordre, là.
Ben.
Parce que là, Mario a plus d'années, il en fait un bout. Il y en a 20 gouttes. Là, vous êtes attaché dans le coup. Ça, il y a toujours des coûts reliés à ça. Ça va être tout à refaire encore, à recommencer encore un autre.
C'est sûr que le patchage, deux choses là-dedans, le patchage, des fois, il n'est comme pas le choix, là, parce qu'il faut garder là, la notion de trou, il faut le faire, même si ce rang-là va être réasphalté l'année d'après, exemple. Puis, on fonctionne avec un plan, quand même, d'intervention, là, avec des niveaux de, autant pour l'urbain, les rues du village, que pour les rangs, là, ça, les travaux publics fonctionnent avec un plan d'intervention, là, qui peut-être qu'on investit davantage sur un ou sur l'autre, là. Puis, quand il y a des travaux majeurs comme celui-là, ça fait quand même une couple d'années, effectivement, qu'on voulait le réaliser, mais ça a été que les subventions n'ont pas été au rendez-vous. Fait qu'on essaie d'utiliser à bon escient les règlements d'emprunt quand il n'y a pas de subvention pour compenser une partie des coûts. Pardon?
Ça représente quoi une subvention sur un pourcentage?
Ça dépend du programme, là, et des travaux. Avec la TEC, on peut aller à 70%, je pense.
La TEC, c'est seulement pour les travaux qui sont en eau et ou aqueduc.
Oui, non,
au niveau du savage, c'est sûr que
c'est pas beaucoup. Il y a des ponceaux, on peut aller avec la TEC. Les programmes de subvention, c'est sûr qu'ils sont le programme d'aide à la voirie locale. On voit à combien de pourcentage.
La dernière, c'est 20% là, qu'on a reçu, là, si je m'en rappelle, au niveau du parage.
Ça varie selon le programme, puis s'il y a des installations d'infrastructures ou pas.
Ouais.
C'est qu'on peut combiner dans une réflexion de route, on peut combiner différentes enveloppes.
Ouais.
Fait que souvent, quand on regarde un projet, on essaie de voir est-ce qu'on est capable de la financer par ces enveloppes-là.
Ben, qu'est-ce qui serait bien, c'est de commencer, mettons, si vous commencez l'an prochain, deux ans, l'année d'ensuite, d'en faire un compte de vous, parce qu'à un moment donné, on va jamais dessus, là, parce que ça revient tout le temps.
Oui. Je vous dirais que, écoutez, on travaille beaucoup avec les subventions historiquement à Sainte-Claire qui nous sont accordées parce que c'est des frais importants, là, les infrastructures maintenant. Là, fait que, mais oui, il y a un plan d'intervention, puis à tout le moins, il y a une notion de priorité des uns par rapport aux autres.
Peut-être en 2026.
Parce qu'il est au PTI, on va le vérifier, puis on pourra vous donner l'information plus rapidement. Donc, il y avait M. Couture et vous, puis ça pourrait clore les cinq dernières minutes, oui.
Les deux pelles qui en arrière de chez elle, madame, il attend après permis.
C'est le promoteur qui attend après ses documents ou plans ou certificats d'autorisation. Le promoteur, son dossier n'est pas complet pour être capable de traiter une entente sur les travaux municipaux.
Le bois, il est à l'entrée du lac, est indiqué après Donald Trump pour les tarifs ou.
À quel endroit, M. Couture?
Sur le terrain à Paris.
Ah, ben il est supposé se faire que le taux de fer soit étendu dans les prochaines semaines, d'ici la fin avril. Là. Parce que la construction est, disons, dans les prochains mois, mais on n'a pas de date de mise en terre, sauf que nous, ce qu'on a fait, c'est de s'assurer qu'à tout le moins, là, si on passe l'été sans construction, que ce terrain-là, visuellement, là, il y a eu des suivis qui ont été faits auprès de M. Paré pour que le terrain soit plus, plus beau à l'entrée du village. C'était ça votre question?
C'est l'entrée sur le premier trimestre, 18% moins de ventes. Au niveau mondial. Ça va pas plus, c'est excellent.
Ça va être dur aujourd'hui, là.
Oui.
Vous permettez de parler
oui, oui.
À Mme la directrice?
De parler à Mme la directrice?
Ouais. J'ai une question sûr. Pour vous. Une réponse à vous donner, Mme la directrice.
Oui.
J'avais posé une question tout à l'heure, puis j'étais un peu. Vous m'avez dit quelle sorte de frais juridiques vous voulez. Je vous demande si les frais juridiques du conseiller ou du conseiller qui a été poursuivi inutilement, comment ça coûtait pour le défendre? Ça ferait partie des dépenses que je voudrais savoir.
OK. Une courte.
J'en rapport à la question de François dans la cour que vous y avez été. Vous avez dit que.
Peux-tu me rappeler la question?
C'est par rapport à la rue du quartier, que c'est l'entreprise.
OK.
Vous allez faire appliquer la rue de raccordement, dans le fond, à la rue de la Rivière. Le terrain appartient ou appartient à la municipalité Saint-Jean.
Oui.
Est-ce qu'il est cédé ou quand ça va se faire? Parce que là, les pelles sont là, il y a pas de permis, mais la rue, techniquement, c'est du terrain, il était à vous. Est-ce que c'est encore à vous?
Oui, oui, oui. Écoutez, l'ensemble du projet, là, c'est ce qu'on dit, là, qu'on n'est pas en mesure de... de faire une entente actuellement. On est prêt à la municipalité, mais le promoteur, disons, actuellement, peut-être entre les pelles, là, mais il y a des documents minimaux que ça nous prend pour faire une entente, dont un certificat du ministère de l'Environnement, la caution d'exécution, des plans aussi là, à jour là, du développement, là, fait que les rues et tout ça, là, celles-là comme les autres rues qui l'auront à faire dans ce développement-là, là, c'est pas... ça ne rencontre pas les demandes à la municipalité, c'est clair.
Je n'ai pas beaucoup d'informations, mais du moment qu'il va y avoir son permis, vous n'aurez pas plus analysé parce que l'on vous a apporté d'autres points que...
Non, mais c'est parce qu'on ne les a pas reçus, ces plans, au fond du moment où il va...
Vous allez les analyser avec vraiment des analyses techniques de voir est-ce qu'il y a la capacité de recevoir tous ces égouts-là de flux.
Tout à fait.
Vous allez comme faire, ben, vous avez votre permis, là, si on a fini l'entente, puis comme on vous l'a dit, il y a eu des recoupements d'égouts chez les voisins. Et si on vient rajouter 300 portes de plus, ben, c'est pas ça qui va aider notre cause.
Mais le ponceau du boulevard Gagnon fait partie de
des... C'est plutôt plus moi je parle vraiment
okay.
Du côté qu'on vous a apporté un nouveau point, puis que là, on sait pour ça que vous allez faire une étude pour regarder si ça a la capacité de l'accorder ou pas, parce que vous n'avez toujours pas les plans du promoteur. Si j'ai l'impression de dire que ces plans sont là, ça va se faire très rapidement, puis qu'il y aura au final pas vraiment d'analyse.
Ben, je vous dirais à l'inverse, Mme Fournier, que le très rapidement, ça fait un bout que la municipalité est comme prête à recevoir et analyser le projet, là, mais que ça n'arrive pas du promoteur. Je pense que c'est pas un jugement pour. Ils font ce qu'ils veulent, puis ils ont différents projets ou autres, là. Mais nous, on n'a pas, puis l'ensemble des membres du conseil, là, s'en informe régulièrement. Ils sont pas prêts à déposer encore. Nous, on peut pas analyser quelque chose qu'on n'a pas reçu, là.
Non, mais je veux juste dire que vous allez
analyser. On peut pas céder une rue non plus si on n'a pas, si on n'a pas d'entente. C'est ça. On n'a pas, mais c'est encore dans les plans, mais. C'est un gros projet aussi, il faut dire quand même, pour les promoteurs. Là, c'est quand même un projet de quelques millions. Là, fait que regardez, ça, c'est comme ça qu'on travaille avec eux. Là, hein, il faut minimalement qu'on reçoive les documents nécessaires à l'analyse. Oui.
Le traitement des eaux usées, la capacité en traitement des eaux usées, la capacité en aqueduc, c'est un des soucis principaux actuellement du conseil, donc on ne pense pas trop.
Oui, il y a la capacité totale de la municipalité, mais tu sais, moi je parlais aussi du secteur, tu sais, un peu on était fait dans les années 80, c'était pas prévu qu'il y ait autant de développement, tu sais, juste avec ça, que ça passe, c'était vraiment la configuration qui faisait que ça faisait un chaque coin dans le fond, fait que si on fait juste qu'on ait plus de choses, ben ça n'a pas aidé la
chose. Mais on ne peut pas ne pas s'en soucier, là.
C'est dans l'évaluation des plans maintenant, l'environnement, pour pallier un peu, là, dans tous les développements, il y a des bassins de rétention, ceux qui sont prévus. Là, ce que vous voyez un peu là, dans les. Si vous vous promenez un peu dans les nouveaux quartiers là, maintenant, c'est pratiquement obligatoire. Parce que ça va venir jouer sur qu'est-ce qui va passer dans nos. Parce qu'on ne pourrait pas refaire une structure là, complète de toutes nos infrastructures. Là, comprenez-vous que si on ajoute des maisons, ils ont trouvé. Ben, le sanitaire en tant que tel, nos ingénieurs là, qui connaissent là, notre plan d'intervention, puis les gens avec qui qu'on travaille, qui font vraiment là, toute l'analyse de notre système, là, sont en mesure en ce moment de nous dire si on est capable ou pas. Donc, on suit vraiment là, les décisions, puis tout ce qui est présenté, là, c'est vraiment basé sur les analyses des firmes d'ingénierie là, qui s'en occupent. Là.
Ça fait partie du CA de l'environnement aussi.
Exactement, oui.
C'est ça. On l'a dit ou pas par les propriétaires.
C'est ça. L'environnement, eux, ont ces données-là aussi. Quand ils donnent un CA, là, quand ils autorisent un projet, c'est parce qu'eux ont fait une première analyse là, au niveau de l'impact environnemental. Là.
Si c'est une question particulière ou c'est un avis, parce que là, on a passé la période de questions.
Okay, non, c'est juste par rapport au nouveau quartier dans le port de Péroso, plus bien, on parlait que les tuyaux, c'est sûr qu'ils ne grossissent pas. Quand le quartier est à côté d'un ruisseau, d'un fossé qui sert de drainage, est-ce que, par exemple, si on accumule l'eau dans notre bassin de rétention, l'eau va aller dans le ruisseau ou elle va prendre les autres tuyaux qui traversent le village jusqu'à la rivière?
Vous parlez de l'eau pluviale,
je pense. Oui. Mon père, est-ce que dans les normes, est-ce qu'ils peuvent utiliser le ruisseau pour évacuer l'eau pluviale de ce quartier-là, ou il faut absolument que ça passe dans toutes les conduites existantes du village?
Non, il y a vraiment un plan qui est fait par un architecte, là, puis pas un architecte, un ingénieur là, qui met son seau, là, je vous dis, il y a vraiment...
Non, parce qu'il y a l'eau de ruissellement, il y a le bassin, c'est les divers moyens de contenir l'eau, là. Le ruisseau n'en fait pas partie, là, comme une voie de déversement de l'eau. Alors, écoutez, on vous remercie pour votre présence.